Un éditeur, c'est rien du tout. Un éditeur, c'est quelqu'un qui prend de temps en temps une décision d'édition, très peu souvent dans une maison comme la nôtre. Et puis, mais c'est quand même pas nous qui écrivons les livres. La chance, c'est formidable. La chance que j'ai eue que les œuvres de Beckett, puisque c'est le premier chronologiquement qui est arrivé dans cette période, que les œuvres de Beckett arrivent jusqu'aux éditions Minuit. Elles n'auraient jamais dû arriver jusqu'à nous qui étions tout en bas de l'échelle. Cette œuvre aurait dû être retenue par les différents cribles des grandes maisons avant nous, et donc la question ne se serait jamais posée. On n'est pas des découvreurs, on est simplement quelqu'un qui, à un moment, décide de transformer quelque chose qui est un simple manuscrit en une espèce de produit de consommation, un produit de série, disons. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de noble en soi. J'aurais été le même Jérôme Lindon et je n'aurais pas édité Beckett, et probablement je n'aurais pas édité ensuite beaucoup de ceux qui sont venus, parce que le rôle de Beckett a été déterminant dans l'image des éditions de Minuit. Vraiment, je ne me ressens pas du tout comme une personnalité exceptionnelle, pas du tout, je veux dire, en aucune façon, même pas comme une personnalité du tout.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Quelques hommes ont laissé une trace dans l'histoire de l'édition française. Le plus souvent, c'est pour avoir bâti un empire, comme Gaston Gallimard. D'autres, pour leur habileté à publier des best-sellers, comme Robert Laffont. Mais un seul s'est imposé, pour son courage dans des périodes politiquement troublées, et pour son éthique professionnelle, affirmant ne publier que les livres qu'il se sait en mesure de défendre. Cet homme s'appelait Jérôme Lindon et il a dirigé pendant 53 ans les éditions de Minuit fondées par Vercors en 1942 jusqu'à sa mort en 2001. La Bibliothèque nationale a reçu en 2015 la donation faite par leurs enfants de la totalité de la bibliothèque de Jérôme et Annette Lindon. Près d'un millier de livres, le plus souvent des éditions originales, dédicacées par leurs auteurs, accompagnées de lettres et de photos. Une exposition passionnante intitulée « Les combats de Minuit » est organisée sur le site François Mitterrand jusqu'au 9 décembre et son entrée est libre. Elle permet de revisiter, à travers les livres édités par Jérôme Lindon, l'histoire politique et intellectuelle de la France de l'immédiate après-guerre jusqu'à la fin des années 90. Anne Simonin, chercheuse au CNRS, auteur d'une somme sur les éditions de Minuit, parue en 2008, l'a parcourue pour nous. Bonsoir Anne Simonin.
Bonsoir.
Est-ce que vous qui connaissez bien les éditions de Minuit, avez beaucoup travaillé aussi sur le travail de Jérôme Lindon, est-ce que vous pensez que c'était au fond une très bonne, peut-être la meilleure approche, que de l'aborder par sa bibliothèque?
Oui, ça je pense que c'est une très très bonne idée. Et dans l'entretien que vous avez diffusé, quand Jérôme Lindon dit « je ne suis rien, mes livres sont tout », bien sûr que c'est une façon de parler, mais je pense que très sincèrement, pour avoir connu Jérôme Lindon, puisque quand j'ai fait ma thèse sur les éditions de Minuit, c'est lui qui m'a ouvert les archives de sa maison, eh bien, il est certain que la notion de catalogue et de livre des livres, en quelque sorte, est vraiment ce qu'il a légué, me semble-t-il, à l'histoire, non pas tant de l'édition française, évidemment, mais de la culture française contemporaine. Et je pense que il est très rare dans des structures, ou plus exactement, cela n'existe que dans des petites structures, aussi bien les éditions de Minuit que les éditions Maspero, quand elles étaient dirigées par François Maspero, d'avoir un éditeur qui lit tous les livres qu'il publie. Et je pense que tout le monde vous dira que Jérôme Lindon était un immense lecteur. Parce que il avait cette chose qui, pour moi, alors moi qui ne suis pas écrivain, l'enjeu était quand même très très mineur. Il avait la façon d'essayer de vous mettre en cohérence avec vous-même. C'est-à-dire de dire, j'aime ou j'aime pas ce que vous êtes en train d'écrire, c'est pas franchement la question. Simplement, je considère que si vous voulez dire ça, alors vous ne le dites pas comme il faudrait le dire d'un point de vue logique. Et puis, il disait toujours aussi, une phrase, ça prend un sujet, un verbe et un complément. En tout cas, quand moi, j'avais des tendances un peu romantiques qui retombaient assez vite.
En tout cas, Anne Simonin, cette trajectoire de Jérôme Lindon, elle n'était pas écrite d'avance. Est-ce qu'on peut dire que c'est un garçon qui a été très bien élevé élevée durement à cause de la guerre, mais élevée dans le respect d'un certain nombre de principes qu'il a trouvé très jeune, à 22 ans quand il a pris la direction de ses éditions de Minuit, et qu'il a trouvé l'occasion de mettre réellement en application. Il y avait une morale chez les Lindon.
Absolument. Et il y avait même peut-être davantage qu'une morale, parce que c'est un mot que j'aime pas tellement, puisqu'à chaque fois ça renvoie à l'adjectif moralisateur. Il y avait surtout une éthique et une façon d'être conscient de ses limites. D'une certaine façon, c'était là aussi où il puisait une vraie notion de liberté. Vous avez raison de dire que d'abord, il y a une imprévisibilité chez Jérôme Lindon qui fait que le parcours biographique ou la biographie traditionnelle ne rendrait pas compte de ça, parce qu'elle tomberait, cette biographie, dans ce que dit très justement Bourdieu, l'illusion biographique. Il n'y a pas une cohérence qui vous permet de dire on part de quelqu'un qui est né en telle année et on aboutit à Jérôme Lindon. Il y a la guerre. Il y a la guerre comme épisode absolument essentiel parce que il va la faire en tant qu'une partie, en tout cas en rejoignant le maquis. Là encore, il a tendance à minorer son engagement en disant mais j'étais juif donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part rejoindre le maquis. Mais ça sera une expérience doublement fondatrice à la fois parce qu'il y rencontre quelqu'un qui va y mourir qui est Gilbert Bloch et que c'est à ce moment-là qu'il va s'intéresser à la culture juive et notamment à l'hébreu où il va apprendre l'hébreu et il va traduire ce qui pour moi est le bréviaire de sa vie d'éditeur, c'est-à-dire le livre de Jonas.
Alors, on le disait, et vous l'avez bien rappelé, Anne Simonin, pas de parcours préétabli, pas de destin tracé tout petit. Il est rentré par hasard aux éditions de Minuit, qui étaient encore dirigées par Vercors. Il était très jeune, il a appris un peu sur le tas les métiers de base de l'édition. Et puis, il se trouve que ces éditions marchaient très mal, qu'elles avaient besoin d'argent. Et c'est son beau-père, le père de sa femme, qui va réinjecter de l'argent à la Libération dans les éditions de Minuit. Et du coup, il va en prendre la direction et tout de suite, il va imposer sa personne. C'est-à-dire que Vercors veut garder un droit de veto et lui va dire... Si j'en prends la direction, c'est moi qui décide.
Oui, ça c'est une vraie décision, parce que sa famille n'était pas du tout d'accord avec ça. Il avait 22 ans, et puis Vercors, c'était l'auteur du Silence de la mer, et d'un autre texte qu'on a tendance trop à minorer, qui s'appelle La marche à l'étoile. Et La marche à l'étoile, c'est l'histoire de Thomas Müritz, qui arrive à Paris, qui émigre de Hongrie, et qui ne peut pas imaginer qu'il va se retrouver porter l'étoile jaune, parce qu'un maréchal de France, le maréchal Pétain pour ne pas le nommer, a décidé de pratiquer une politique de collaboration avec l'occupant nazi. Et c'est cette sorte de croyance absolue dans la France et en même temps de désillusion radicale qui fait que lorsqu'il a fallu sauver les éditions de Minuit, eh bien des familles de la haute bourgeoisie juive se sont unies et ont décidé que cette maison-là ne pouvait pas mourir. En 1947, les éditions Charlot font faillite. C'était important, les éditions Charlot, ça a été l'éditeur de Camus, parce que toutes les petites maisons d'édition n'arrivent pas à tenir la normalité dans le retour au marché. Et puis à un moment donné, où il ne faut pas l'oublier, il y a encore des restrictions de papier très importantes. La suppression de la restriction de papier, c'est 49. Et donc, si vous voulez, ils n'ont pas ces nouveaux venus dans le champ éditorial, n'ont pas les acquis qu'ont les grandes maisons. Donc, il y a quelque chose qui se referme. Et je trouve que l'extraordinaire des éditions de Minuit, c'est qu'on a maintenu ouverte la parenthèse. Et Jérôme Lindon, quand il dit non, d'abord, le droit de veto, vous me l'accorderez, n'a jamais eu bonne presse dans l'histoire de France. Ça n'a pas tellement réussi à Louis XVI. Et lui dit non. Il le fait vraiment sur un coup de tête. Il racontait toujours que lorsqu'il est rentré chez lui, parce que il habitait l'appartement du chauffeur chez ses grands-parents, quand il a dit à son père qu'il avait dit non à Vercors, il n'était pas du tout content. Voilà. Et après, il va y avoir une solidarité autour de lui, puisque bon, c'est fait, et que Jérôme Lindon, ça faisait partie des gens qui faisaient avec. Voilà.
En tout cas, lorsque Jérôme Lindon, à 22 ans, il faut le rappeler, prend la tête de ces éditions prestigieuses mais en mal-être financier, il le fait sur une idée claire. Il ne publiera jamais que ce qu'il a envie de publier, ce en quoi il croit. On l'écoute, c'était en 1986 dans l'émission Agora.
Je me dis en face d'un texte, est-ce que je suis capable de défendre l'auteur comme il est en droit de l'attendre de son éditeur, un peu comme un avocat à qui on vient apporter une cause et qui ne l'accepterait pas s'il pensait qu'il ne pourrait pas en faire grand-chose. Moi, je me trouve très souvent en face de textes que je trouve intéressants, qui sont même susceptibles d'avoir un grand succès, et qui ne conviennent pas aux éditions Nouveau, ou plutôt à qui je ne conviens pas, c'est plus exactement. Je ne conviens pas parce que je ne saurais pas bien faire mon travail, parce que je ne serais... je le défendrais mal, et alors ça serait malhonnête, à partir du moment où je ne suis pas sûr de le défendre parfaitement bien, de l'accepter. Quelquefois, on a un texte dont on dit, oh, on aime bien ce texte, mais est-ce que... C'est ça qu'a voulu faire l'auteur. Est-ce qu'on ne l'aime pas pour d'autres raisons que l'auteur? Et ça, c'est pas bien. Il faut vraiment, en réalité, devenir un peu comme l'auteur. Pas devenir l'auteur, mais devenir un peu comme lui. C'est-à-dire entrer complètement dans le texte comme si on l'avait un peu fait, en effet. Vous savez, ce qui compte, c'est qu'un auteur soit publié dans la maison d'édition où il sera le mieux.
On entend la formidable intelligence de Jérôme Lindon, Anne Simonin, et dans ce qu'il exprime, ça nous ramène à une des sections de cette intéressante exposition à la BN, c'est le courage d'éditer. Ça va se manifester très tôt. Il va publier un texte de Jean Paulhan, qu'il connaît bien, que beaucoup de maisons d'édition refusent, et notamment Gallimard, où travaillait Paulhan. C'est la lettre au directeur de la Résistance. Il va la publier en 1951. C'est un texte qui attaque cette épuration dans l'édition que dénonce Paulhan. Et en même temps, il va publier également les premiers textes de littérature concentrationnaire. Il va publier Charlotte Delbo, Elie Wiesel, Micheline Morel. Il y a ce besoin d'être libre et de ne pas se cantonner à des barrières ni politiques ni générationnelles.
Pour comprendre ce qu'il fait avec ça, et vous avez raison d'exposer le dispositif, il faut revenir à Jonas et à la notion de trahison. Dont Gilles Deleuze, qui était un auteur des éditions de Minuit, il faut bien voir que le discours de Jérôme Lindon, il est quand même informé et nourri par les gens en sciences humaines qu'il a publiés, et il fait très très bien la théorie de sa pratique, mais quand on est l'éditeur de Pierre Bourdieu, comment faire autrement? Et il a aussi une philosophie de son métier d'éditeur, mais quand on est l'éditeur de Gilles Deleuze, comment faire autrement? Et dans ses entretiens avec Claire Parnet, Gilles Deleuze distingue deux notions, le tricheur et le traître. Et je pense que Jérôme Lindon n'a jamais, de mon point de vue, alors je ne veux pas du tout mythifier le personnage, n'a jamais été un tricheur, mais comme il l'avait confié à Didier Ribon dans un entretien du Nouvel Observateur à l'époque, trahir, dit-il. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il publie la lettre au directeur de la Résistance, trahit la Résistance. Pour le coup, parce que Jean Paulhan défend dans ce texte des positions qui sont des positions de droite extrême, avec des chiffres qui sont absolument faux. Donc il trahit la Résistance, mais il trahit la Résistance pour une volonté créatrice. Il faut bien voir aussi que derrière la Résistance, il y a son père, avocat général à la Libération, qui a requis et obtenu la mort de Henri Béraud, même si Béraud sera journaliste, sera gracié par la suite. Donc il a un compte à régler vis-à-vis de ça. Il a un vrai problème de légitimité. Vous l'avez rappelé, il a 22 ans, donc en 48. Donc c'est quand même très très jeune. Mais il va trahir pour en faire autre chose. Il trahit pas pour mettre à bas la Résistance. Il trahit la Résistance pour pouvoir être fidèle à l'esprit de la Résistance, en considérant que la Résistance s'est installée dans une position moralisatrice à la Libération, et que ça, c'est quand même très ennuyeux. Parce que il y a une chose que vous avez peut-être pas dit de Jérôme Lindon, c'est que Jérôme Lindon, c'était quelqu'un qui était extrêmement drôle, qui avait un vrai sens de l'humour et un second degré. Donc, cette trahison, elle s'accompagne d'un renouveau de fidélité et notamment d'un investissement dans des causes qui sont des causes minoritaires. Les prêtres ouvriers en sont une quand ils s'en emparent, la littérature concentrationnaire, les textes qu'ils publient, on parle tout le temps de refus de Beckett, mais Charlotte Delbo avait aussi été refusée, Micheline Morel arrive aux éditions de Minuit par l'intermédiaire de Jean Paulhan, parce que Gallimard ne veut pas la publier, et qu'il va donc avoir ce souci de dire « je vais proposer une autre lecture de ce qu'est une attitude résistante ». Et je pense que, fondamentalement, la résistance, dont on ne parle plus beaucoup actuellement, est quelque chose que Jérôme Lindon aura passé son temps à réactualiser. Et cette éthique de la chose publique, qui fait que, il disait aussi, quand on est l'éditeur de Beckett, on doit se battre pour la liberté d'expression de tout le monde, d'un homme qui est torturé pendant la guerre d'Algérie, Henri Allègre, mais aussi de gens qui sont en train de mener des combats. Et il y a toujours eu ce lien extrêmement fort avec ce qu'était l'éthique de la Résistance.
D'ailleurs, en droite ligne, avec la fidélité aussi à la Résistance, à ce que la France doit à elle-même, il y a bien sûr la guerre d'Algérie.
J'estime que c'est le devoir d'un éditeur, quand une conjoncture comme celle-là se présente, de faire ce qui est en son pouvoir pour défendre, par exemple, l'idée de liberté
qui est malgré tout celle sur quoi se fonde notre métier. Je me dis que quand on a la chance d'être l'éditeur, disons, de Beckett, pour prendre un nom, on se doit de défendre la liberté qui vous en donne le pouvoir. Donc, au moment où cette liberté est en cause, il est normal qu'on se manifeste. Maintenant, quand la liberté n'est plus en cause, je ne me sens pas, je vous dis, systématiquement une âme de leader politique du tout. Et je préfère les époques où je n'ai pas besoin de défendre ces idées, c'est tout de même plus agréable. Nous avions fait le pari de croire la vérité sur un manuscrit d'un homme que nous ne connaissions pas et pour un manuscrit qui nous arrivait par des voies souterraines, dans la mesure où dans ce livre était dénoncé un certain nombre de responsables, nommément, de la torture. Le risque, c'était, nous le connaissions, c'est que nous soyons poursuivis en diffamation, que nous n'ayons pas les moyens de prouver ce que nous avancions, c'est ce qui aurait été notre devoir, et que nous soyons par conséquent condamnés à des amendes qui, même si elles n'étaient pas considérable, étant donné la situation financière des éditions de Minuit, nous aurait immédiatement obligé à déposer notre bilan, sans parler, bien sûr, de la prison et autre chose.
Là, on entendait donc Jérôme Lindon évoquer le livre d'Henri Allègre, La Question, mais il s'est investi beaucoup durant la guerre d'Algérie contre la torture. Il était ami avec Pierre Vidal-Naquet, il s'est investi dans l'affaire Audin, il a publié Germaine Tillon, il a participé au manifeste des 121 qui a été imprimé par les éditions de Minuit. Et puis, il faut quand même rappeler, quand il dit les désagréments, bien sûr, entre juin 57 et avril 62, 25 titres publiés sur la guerre d'Algérie, il y a eu 9 livres saisis, dont 3 l'ont été 2 fois.
Quand vous écoutez Jérôme Lindon, moi ce qui me frappe là, c'est l'utilisation du vocabulaire juridique. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, mettait le droit en action. C'est-à-dire en faisant jouer au droit, pour moi, ce qui est sa mission civilisatrice, c'est-à-dire d'être du côté des faibles et des opprimés, et des gens auxquels on ne laisse pas la parole. Et il a très conscience de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il parle de preuves, il parle de matérialité, il connaît les transgressions qu'il accomplit. Ce qui est d'autant plus étonnant que ça ne l'empêchait pas d'avoir comme éthique de vie, on s'engage et on voit. Mais enfin, quand il s'engageait, il avait avec lui une analyse juridique de la situation. Quand il publie La Question d'Henri Allègre, c'est vrai que c'est un texte qui arrive par des voies détournées, mais c'est vrai aussi que c'est un texte qui a été en partie publié dans l'Humanité en 57. Donc, il y a un certain nombre de filtres qui existent. Maintenant, le publier en livre, c'était quelque chose qui était une transgression majeure. Et quand vous dites qu'il a lutté contre la torture, je pense que fondamentalement, il a construit la torture comme question politique. Et il l'a construite parce qu'il lui a donné la dignité du livre, il l'a revêtue de la légitimité de la maison, édition de Minuit, en permettant une sorte de rejeu immédiat de mémoire, en disant en 1942, sous la botte de l'occupant nazi, nous avons publié Le silence de la mer. Il n'était pas là à ce moment-là, puisque c'est Jean Brulaire, Divercors et Pierre de Lescure qui font des éditions de Minuit pendant la clandestinité. Et en 1958, il va manifester sa fidélité à cette histoire, effectivement en publiant La Question. Mais il faut bien voir que Minuit fait plus que être une sorte de chambre d'écho à un débat qui commence à surgir. Il institue la torture comme problème politique. Parce que la torture sans narratif, ça n'est pas la torture. Et moi, je sais, pour avoir rencontré des avocats algériens qui travaillaient, la torture est un phénomène qui commence à être dénoncé à partir de 56-57. Et les catholiques de gauche jouent un rôle absolument essentiel. Mais qu'est-ce qui ressemble plus à un rapport de médecin décrivant le corps torturé d'un arabe qu'un autre rapport de médecin ? Alors que tout d'un coup, avec Henri Allègre, vous avez un écrit journalistique et une mise en récit de ce qu'est l'acte de torture et pourquoi cet acte est inadmissible. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui fait que l'engagement, la nouveauté de l'engagement des éditions de Minuit est que Jérôme Lindon, avec l'aide de Pierre Vidal-Naquet, qui était quand même là aussi quelqu'un de très présent, l'historien Pierre Vidal-Naquet, ont constitué la torture comme problème politique.
Pour rester dans la droite ligne de cette éthique de la trahison dont vous nous parliez tout à l'heure, Anne Simonin, c'est une position que Jérôme Lindon va renouveler. Après la guerre des six jours, il va se positionner en défenseur des droits des Palestiniens contre l'occupation des territoires, contre le fait qu'on parque des réfugiés derrière des barbelés, et
il va publier d'ailleurs la revue d'études palestiniennes.
Oui, et pour les Fidaïnes de Jacques Vergès. Et puis un livre aussi très important qui est de la stratégie judiciaire de Jacques Vergès. C'est-à-dire, c'est comment, quand vous êtes dans une logique juridique, vous parvenez à subvertir le droit en choisissant d'avoir des stratégies de rupture par rapport à la question judiciaire.
Et d'ailleurs, on va l'écouter expliquer pourquoi et au nom de quelle éthique il a publié cette revue.
Ça a toujours été une revue d'un très haut niveau. Mais bon, bah, les Palestiniens étaient les victimes. Il y a un texte, probablement, je ne pourrais même pas vous en donner la référence, mais il y a un texte du Talmud qu'une fois quelqu'un m'a dit, qui est celui-ci. Quand un méchant persécute un juste, Dieu est du côté du persécuté. Quand un méchant persécute un méchant, Dieu est du côté du persécuté. Quand un juste persécute un juste, Dieu est du côté du persécuté. Et quand un juste persécute un méchant, Dieu est du côté du persécuté. C'est quelque chose que je crois profondément vrai, c'est comme ça que je ressens les choses. Je ne prêche pas la moindre croisade, hein. Je veux dire, je pense ça pour moi, c'est comme ça que je le ressens maintenant. Je comprends très bien que d'autres puissent avoir d'autres idées sur la question. Mais...
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Je me disais souvent, je lis Faulkner ou je lis Kafka, etc. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ses œuvres. Mais en fait, les livres que je lis, c'est des livres qui paraissent sous la couverture prestigieuse de Gallimard, qui me sont présentés dès l'abord comme des grands écrivains. Et qu'est-ce que je dirais si c'était un manuscrit d'un inconnu? Le château ou Lumière Doux, qu'est-ce que j'aurais dit en face de ça? Et je me posais en effet cette question de savoir ce que je ferais en face d'un texte qui arrive. Et puis, pour moi, ça a été Molloy a été ce déclencheur. Tout à coup, je me suis dit deux choses. D'une part, que c'était évident que c'était une grande œuvre dès la première seconde, dès la première phrase, dès la première ligne. Je suis dans la chambre de ma mère, c'est moi qui y vis maintenant, etc. Ça sentait dans l'immédiat, pour moi, la même impression que je croyais avoir déjà éprouvée avec Faulkner ou Kafka, par exemple. Et deuxième impression, comment se fait-il que c'est un écrivain aussi évident que celui-ci ait pu passer à travers tous les cribles de l'édition française? J'ai su après qu'il y avait eu 27 éditeurs qui avaient eu les œuvres de Beckett et qu'aucun ne les avait retenues. Donc, effectivement, j'ai eu peut-être à partir de là le sentiment, un, que je pouvais être éditeur, et deuxièmement, que même ça pouvait avoir un intérêt que je le sois, puisque je comblais en quelque sorte un certain vide.
Alors je voudrais préciser que toutes ces belles archives de Jérôme Lindon que nous entendons ce soir sont tirées de ses émissions à voix nue de 1994 sur France Culture. Alors évidemment, Anne Simonin, même pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme Lindon et qui ne pratiquent pas souvent les éditions de minuit, on dit Beckett et on dit nouveau roman. C'est très étrange parce que lorsque Jérôme Lindon décide d'imprimer les manuscrits refusés par ailleurs de Beckett, Beckett est persuadé qu'il va entraîner sa cet homme si sympathique dans la faillite. Et en fait, c'est à partir de là, pas forcément avec les livres de Beckett, mais c'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup, la littérature, le nouveau roman, commencent à percer et vont faire la réputation, la renommée et finalement les ventes aussi des éditions de Gallimard.
Absolument, parce que Jérôme Blindon a toujours centré le récit de son origine en tant qu'éditeur sur cette lecture de Molloy, notamment parce qu'il l'avait emporté chez lui, qu'il a failli perdre le manuscrit, enfin en tout cas les feuilles du manuscrit se sont défaites dans l'ascenseur à la Motte-Piquet-Grenelle. Mais il faut voir la singularité de Beckett. C'est que Beckett est un auteur qui arrive aux éditions de Minuit, non pas avec un texte, mais avec la trilogie Malheur, Malhonneur, L'Innommable et En attendant Godot. Donc c'est un auteur qui arrive avec une œuvre, ce qui en soi est quelque chose d'absolument exceptionnel, déjà. Parce qu'en règle générale, vous publiez un texte, enfin j'en sais rien, je suis pas éditeur, mais je sais que voilà, il y a un texte et il n'y en a pas nécessairement quatre décrits derrière. Et puis, il va y avoir une initiative très importante. Alors, tout de suite, la publication de Beckett va classer les éditions de Minuit. C'est-à-dire cette maison qui était un pôle des refusés Gallimard. C'est-à-dire que Minuit faisait quand même les tiroirs de Gallimard parce qu'à cause, dans cette immédiate après-guerre, de la pénurie de papier, Gallimard se précipitait pas pour republier des gens qui s'appellent quand même Georges Bataille, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski, c'est-à-dire les piliers de la modernité, mais aussi André Dautel, Henri Thomas, qui sont des gens qui font sens dans la littérature, et Jean Paulhan, qui avait toujours servi de directeur littéraire officieux des éditions de Minuit pendant la guerre, en particulier, parce qu'il jouait au boule avec Jérôme Blindon aux arènes de Lutèce. Donc, lui passer, parce qu'il fallait mettre des auteurs en attente, mais en même temps, en ne les libérant pas de leurs obligations envers Gallimard. Ce qui était un jeu redoutable, parce que Minuit récupérait des textes, mais ne récupérait pas des auteurs. Quand Beckett arrive, c'est pas simplement le refus de 27 éditeurs, c'est que tout d'un coup, Jérôme Blindon va enfin pouvoir avoir un auteur à lui. Et pas servir de bouche-trou à la grande maison de référence, la banque centrale de la littérature que sont les éditions Gallimard. Et puis pour Beckett, il va faire alors tout de suite l'accueil critique, parce que Beckett a une vraie notoriété quand même dans le milieu. L'accueil critique est excellent, en particulier Maurice Blanchot signale tout de suite l'importance de Samuel Beckett. Mais c'est Jérôme Blindon qui va avoir l'idée d'intercaler dans la trilogie, la publication de la trilogie beckettienne, la première représentation d'En attendant Godot. Et entre Malhonneur et L'Innommable, il y a la mise en scène de Godot au théâtre de Babylone par Roger Blin. Et là, avec le théâtre, Beckett va toucher deux types de publics. Le public lettré avec ses œuvres en prose, mais un public beaucoup plus large avec ce qu'est le nouveau théâtre. Et avant d'être l'éditeur du nouveau roman, les éditions de Minuit sont l'éditeur du nouveau théâtre. Il y a Ionesco et puis Adamov qui est aux éditions de Minuit aussi. Donc si vous voulez, il y a cette façon, cette intelligence éditoriale de Jérôme Blindon qui fait que là, il apporte une plus-value à Beckett. Parce que Beckett se serait pas préoccupé de savoir si Godot devait paraître ou pas en sandwich, en quelque sorte, entre Malhonneur et L'Innommable. Et ça, ce sont des choix qui ont un impact littéraire absolument énorme.
Alors évidemment, le nouveau roman, ça dure encore aujourd'hui, ça a fait la réputation littéraire des éditions de Minuit, ça a permis à cette nouvelle génération, à partir des années 70, d'arriver. Il a décroché Marine Diaye, il y a Jean Echenoz, il y a Jean Rouault.
Jean-Philippe Toussaint.
En fait, dans cette exposition à l'ABN, on découvre aussi quelque chose que les gens souvent délaissent, mais qui a énormément compté pour Jérôme Blindon et pour les universités. C'est toute la publication des sciences sociales.
Ah ben oui, ça a été la deuxième partie des années 60. Vous dites que le nouveau roman existe encore aujourd'hui. Oui et non.
Parce aux États-Unis, que... ça reste encore
oui,
très
voilà.
prégnant.
Alors, aux États-Unis, oui. Mais ça a été l'idée assez géniale de Rob Grier. C'est-à-dire qu'il était pape du nouveau roman et il avait compris qu'il fallait conquérir les États-Unis. Et il a été beaucoup aidé par un monsieur qui s'appelait Tom Bishop. Et ils ont conquis les programmes dans les universités américaines. Donc très vite, les auteurs du nouveau roman ont été labellisés en quelque sorte. Et donc les traductions ont été très très importantes. Et cette littérature a eu un impact au niveau national, mais aussi au niveau international. Mais 57, c'est la grande année de publication des textes du nouveau roman. C'est aussi le début de l'entrée dans la guerre d'Algérie. Et donc, il va y avoir coexistence aux éditions de Minuit, une espèce de feuilletage. On publie le mois où Jérôme Blindon publie La Question, il publie Moderato Cantabile de Marguerite Duras. Et si vous voulez, il y a un effet catalogue. C'est-à-dire que cette littérature qui, par certains critiques, est lue aujourd'hui comme une littérature sans histoire...
Moi, ça me fait sourire, parce que je pense que c'est une littérature, le nouveau roman est une littérature très profondément historique. D'abord, Claude Simon, mais ça, c'est presque facile, mais le nouveau roman est une littérature historique parce que elle est publiée aux éditions de Minuit. Et qu'à chaque fois que Jérôme Lindon met son imprimature, sa couverture blanche et l'étoile bleue sur un texte, il produit un effet catalogue. À tel point que vous avez signalé les saisies pendant la guerre d'Algérie, il suffisait qu'il sorte un livre sur la guerre d'Algérie, le livre était saisi. Donc il y avait un effet comme ça d'entraînement et de boule de neige. Mais si vous voulez, si l'apport des études de Roger Chartier à l'histoire littéraire, c'est de prendre en compte l'histoire de l'édition, ça permet de comprendre qu'un éditeur est un auteur d'auteur, mais qu'il y a aussi un effet catalogue qui fait que le même livre publié sous la couverture Édition de Minuit ou sous la couverture Robert Laffont ne sera pas lu de la même façon. Comme Jérôme Lindon ne publiait pas beaucoup de livres, il a su créer ce que Pierre Bourdieu a théorisé pour lui, c'est-à-dire il a créé véritablement une marque. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'écriture de Claude Simon et de Rob Grier ? Si je vous enferme et que je vous laisse pas ressortir avant que vous me disiez exactement de quoi il s'agit.
Non, ce ne sont pas les mêmes écritures. Non,
voilà.
Non.
Voilà. Mais
c'était Jérôme Lindon qui faisait le lien entre ces écrivains.
Et donc c'est ça qui est important. Et en plus, à partir du moment où il va publier Pierre Bourdieu va prendre appui sur les éditions de Minuit parce qu'il a accès à des chiffres de tirage, parce que c'est son éditeur, et va construire aussi la position des éditions de Minuit comme maison d'avant-garde. Et une partie des théories de Pierre Bourdieu sur le champ éditorial sont élaborées, notamment son grand article de 77, La production de la croyance, sont élaborées à partir de l'exemple des éditions de Minuit. Et c'est vrai qu'il va y avoir un investissement dans la collection Le Sens commun, qui est la collection de Pierre Bourdieu, mais aussi dans la collection Critique, qui est dirigée par Jean Piel, et dans la collection Arguments, dirigée par Kostas Axelos, tout ça dans les années 60. L'investissement dans une production de sciences humaines qui est une production très internationale, qui n'intéresse pas à ce moment-là beaucoup sur le marché. Et ça, si vous voulez, c'est la deuxième renaissance de Minuit, cette façon de se déplacer sur le terrain des sciences humaines et d'en faire des sciences humaines incroyablement subversives par rapport à ce qui est se publier, là encore, dans d'autres maisons d'édition.
Eh bien voilà, on vous garderait volontiers, Anne Simonin, parce que c'est absolument passionnant de vous écouter, mais j'invite les auditeurs à se rendre donc jusqu'au 9 décembre prochain sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France. Cette exposition « Les combats de Minuit » a été préparée et mise en place par Séverine Dupuche-Garnier, Anne Renoux et Bérénice Stoll. Et pour ceux qui se passionneraient à juste titre pour les éditions de Minuit, je rappelle que votre livre, paru grâce à l'IMEC, s'appelle « Les éditions de Minuit 1942-1955, les éditions de Minuit, le devoir d'insoumission ». Merci à vous, Anne Simonin.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine, mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.